À la page 778, 1 Thessaloniciens 5, on va aller à partir du verset 12 jusqu'à la fin de la lettre. Nous vous demandons, frères et sœurs, de reconnaître ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Soyez en paix entre vous. Nous vous y invitons, frères et sœurs, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, réconfortez ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, faites preuve de patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre esprit, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Frères et sœurs, priez pour nous. Saluez tous les frères et sœurs par un saint baiser. Je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Alors ce matin, nous allons écouter ce que Dieu, ce que l'Esprit veut nous dire par ce passage une deuxième fois. Déjà, la semaine dernière, on a prêché sur ce passage. On s'est focalisé la semaine dernière plutôt sur les versets 12 à 15, où on a réfléchi à cette sainteté pratique à laquelle Dieu nous appelle, une sainteté pratique qui donne la paix, qui crée la paix entre nous, entre frères et sœurs. L'apôtre Paul nous a parlé de l'estime et de l'amour qu'il nous faut avoir pour nos responsables, ceux qui enseignent, qui se donnent de la peine dans le travail pastoral. Il nous a parlé de notre responsabilité commune, réciproque, de nous avertir les uns les autres, de réconforter ceux et celles qui sont abattus par toutes sortes d'épreuves, de soutenir ceux et celles parmi nous qui sont faibles, qui n'arrivent pas à faire face seuls aux circonstances difficiles de la vie. Et on a vu comment nous sommes tous beaucoup plus faibles et sensibles qu'on ne le pense. Et on a besoin d'exercer la patience les uns envers les autres. On a besoin de patienter. On a besoin de chacun de cette patience de nos frères et sœurs. Mais comment est-ce qu'on peut vivre ces choses-là? Choses qui sont parfois difficiles. Où est-ce qu'on puise la force, la motivation? Et surtout dans la durée. Alors, on a commencé à répondre à cette question la semaine dernière. C'est l'espérance que l'Évangile nous donne, qui en est le moteur. Et on a vu ça dans le contexte, dans les versets qui précèdent notre passage. Je les cite, verset 9. « En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, c'est-à-dire la mort, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » On a vu comment cet avenir que nous avons, cet avenir sûr et certain, est centré sur Jésus lui-même. Et cet avenir-là, cette espérance, fait que nous voulons d'ores et déjà vivre pour lui plaire. Et la suite de notre passage de ce matin va nous montrer comment faire en sorte que nos cœurs soient trempés dans cette espérance-là. Un peu comme du carburant dans le moteur. Si l'espérance est vraiment le moteur, il nous faut du carburant dans ce moteur. Et ce passage, la suite de ce passage, va nous montrer comment mettre ce carburant, comment tremper cette espérance, comment tremper nos cœurs dans cette espérance qui nous donne cette envie de plaire à Dieu. J'étais à un mariage hier. C'est un peu comme deux fiancés qui attendent leur jour de mariage. Cette attente peut être longue. Imaginons le scénario où deux fiancés doivent attendre des mois, peut-être même des années. Le fiancé doit partir à la guerre, aux tranchées. Et les mois passent, les années passent. Et par moments, les doutes jaillissent. Au début, c'était facile d'attendre. Mais avec le temps qui passe, ça devient un peu dur. Est-ce que ce mariage va vraiment avoir lieu? Est-ce qu'il va revenir de la guerre? Qu'est-ce qui va permettre à cette fiancée rester à la maison? De tenir, d'espérer, de ne pas douter, d'abandonner, de ne pas abandonner. Qu'est-ce qui va lui permettre de garder la foi, de persévérer fidèlement dans cet engagement, de vivre jour après jour dans l'espérance? Nous sommes un peu dans cette situation-là. Nous attendons le retour de notre Seigneur. C'est un long dimanche de fiançailles. Nous savons qu'il va revenir. On a vu ça dans cette lettre. Il va revenir, c'est sûr. Mais qu'est-ce qui va nous permettre de garder la foi, de persévérer fidèlement dans cet engagement, de vivre pieusement dans cette espérance? Et la suite de ce passage va nous montrer deux choses, deux carburants. La prière joyeusement reconnaissante, ou la prière dans la reconnaissance joyeuse, et ensuite l'écoute humble de sa parole. La prière dans la reconnaissance joyeuse et l'écoute humble de sa parole. Et on va voir que ces deux choses vont bien ensemble. Et on va voir en conclusion une troisième chose aussi, la dépendance de Dieu. Les deux verbes, prier, écouter. Donc prier d'abord. Commençons avec cette prière dans la reconnaissance joyeuse. Il y a trois commandements au verset 16 à 18. Réjouissez-vous, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance. On pourrait prendre ces commandements individuellement, mais il me semble qu'ils soient liés et un peu interdépendants. Priez ensemble, comme on a fait ce dimanche matin. Priez ensemble le jeudi soir, à la réunion de prière ou dans les groupes de maison. Priez dans nos familles, dans nos couples, entre amis, entre frères et sœurs. Dans la reconnaissance joyeuse. C'est fortifier, c'est rendre plus perspicace notre espérance. C'est mettre du carburant dans le moteur de l'espérance. Et tout ça va nous encourager à vivre cette sainteté pratique, cette sainteté pratique qui plaît à Dieu et qui donne la paix dans l'Église. Alors peut-être ce matin, vous n'êtes pas tellement dans la joie. Peut-être la semaine a été dure. Peut-être vous faites face à toutes sortes d'épreuves, certaines inconnues de ceux et celles qui vous entourent. Comment être toujours joyeux? Réjouissez-vous toujours. Est-ce que nous parlons là de quelque chose d'irréaliste et donc quelque chose d'accablant? Notez qu'il s'agit d'un commandement, quelque chose à faire, quelque chose qui ne va pas venir naturellement. C'est un combat spirituel pour la joie. La joie chrétienne jaillit et peut jaillir de manière constante parce qu'elle ne dépend pas de nos circonstances. Elle a jailli pour la première fois pour les Thessaloniciens au moment où ils avaient accueilli la parole de Dieu. Je vous invite à jeter un coup d'œil sur le verset 6 du chapitre 1. Vous-même, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en accueillant la parole au milieu de grandes difficultés avec la joie du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait jaillir cette joie au moment où les Thessaloniciens, à l'écoute de la parole, ont vu Jésus et saisi ce pardon qui est offert en lui. Et c'est la joie de nous savoir à lui, à Christ, pour l'éternité, au bénéfice de son sacrifice à la croix, et donc accueilli par Dieu, contre toute attente, avec tout l'amour qu'il a pour Jésus. On reçoit ce même amour parce qu'on est en Jésus. C'est la joie de nous savoir à lui pour la mort et pour la vie. Nous qui étions jusqu'à là des esclaves, nous étions des esclaves d'idoles comme les Thessaloniciens. On avait des pensées obscures, on avait des amours malsains, un individualisme idolâtre. On était comme les Thessaloniciens, voués à la colère de Dieu, à la juste colère de Dieu. Mais par l'Esprit, par cette parole qui a été prêchée, Dieu nous a sortis de là. L'Esprit nous a sortis de là. Il nous a unis à Christ. Et en Christ, nous sommes au Père. Et donc, on a cette espérance, on a cette joie. Cette espérance basée sur la grâce seule et non pas sur nos efforts. Basée sur Christ seul et non pas sur nos œuvres. Pas sur nos mérites. Sur notre capacité à coopérer avec la grâce de Dieu. Non, la grâce seule, Jésus seul. Et c'est cette espérance-là qui fait jaillir la joie. Nous sommes à lui, c'est sûr, c'est chose certaine. On peut attendre ce Seigneur qui nous délivre de la colère à venir avec assurance. On a parlé la semaine dernière, la semaine d'avant aussi, de ce jour de la bonne surprise quand Jésus revient. Alors c'est vrai, parfois cette joie nous semble bien lointaine, n'est-ce pas? On l'avait peut-être au début de la foi, mais peut-être depuis, il y a eu bien de déceptions. Peut-être un mariage difficile, une vie d'église mouvementée, une santé qui a été rudement mise à l'épreuve qui a mis à l'épreuve votre foi. Peut-être juste un train-train quotidien, un peu speed qui, à la longue, vous a fatigué. Et la foi, cette joie est devenue un peu fade. Parce que la foi, venez à l'église, c'est juste encore un truc à faire, un truc de plus à faire. Mais cette joie est un combat qui s'alimente, qui se vit dans la prière. C'est pour ça que Paul ajoute tout de suite après, priez sans cesse. Si cette joie qui fortifie notre espérance est au rendez-vous, il faut que la prière devienne une partie de qui nous sommes, un réflexe constant face à chaque situation. Ça vaut pour notre vie d'église, aussi pour nos vies de famille, pour nos vies individuelles. Est-ce que cette prière constante, est-ce que ce réflexe, c'est le vôtre? Est-ce votre réflexe ou est-ce plutôt la dernière chose que vous faites? La dernière chose que vous faites une fois que toutes les autres pistes sont épuisées. Moi, je sais que pour moi, j'ai des progrès à faire dans ce domaine-là. J'ai tendance à épuiser toutes les autres pistes et ensuite, il va falloir que je prie. Un réflexe, le premier réflexe, constamment. Et tout de suite, Paul ajoute, exprimez votre reconnaissance. Je ne sais pas si c'est vrai pour vous, mais moi, j'ai souvent tendance dans la prière à passer très rapidement aux requêtes. Aide-moi, Seigneur, dans ce domaine. Donne-moi ceci ou donne-moi cela. Change cette situation. Alors on est libre de lui adresser la parole avec nos requêtes. On sait qu'il est un bon père qui se plaît à écouter ses enfants. Il se plaît à leur donner de bonnes choses. C'est notre bon Père céleste. Mais on peut vite tomber dans cette perspective centrée sur nous-mêmes. Et du coup, Dieu devient un simple pourvoyeur de bénédictions, de solutions pratiques. Et notre spiritualité, notre foi devient centrée sur nous-mêmes ou sur ce but d'obtenir des choses de Dieu, de lui arracher des choses, des changements, des situations meilleures. Il est un bon Père céleste, c'est vrai. Mais justement parce qu'il est bon, il veut vraiment le meilleur pour nous. Et vous savez, le meilleur pour nous, c'est lui-même, c'est Dieu lui-même, c'est Christ, c'est sa personne. Il veut que nous soyons centrés sur lui. Dans la reconnaissance joyeuse. Quand nos cœurs se tournent dans la prière vers celui qui nous a tout donné en Christ, par pure grâce, qui par pure grâce nous a destinés non pas à la colère que nous méritons, mais à la possession de ce salut, comme on l'a vu dans les versets qui précèdent ce passage. Quand nos cœurs se tournent vers lui, naturellement, ils se remplissent de cette reconnaissance joyeuse. C'est une prière qui compte les bienfaits de Dieu, qui lui remercie pour qui il est. Il est bon, il est amour, il est juste, il est souverain. C'est un cœur qui lui remercie pour ce qu'il a fait, ce qu'il fait pour nous. Alors suprêmement en Christ, mais aussi dans ses soins providentiels quotidiens. Nous nous rappelons dans la prière comment Dieu nous est bienveillant, combien il est bon, combien il est beau, combien il est bienfaisant de lui appartenir. Et ça alimente notre joie. Et cette joie-là alimente notre espérance. Ça nous fait attendre avec impatience. Ça nous aide à vivre ce long dimanche de fiançailles. Ça nous donne cette envie de lui plaire. En tant qu'Église, on a besoin de prier de cette manière-là. L'apôtre Paul adresse cette lettre à toute l'Église. Ce n'est pas juste ce qu'on doit faire individuellement, mais en tant qu'Église. Il faut vivre, il faut qu'on vive cette prière dans la reconnaissance joyeuse. Mais ensuite, après, dans nos familles et individuellement. Il nous faut garder la personne de Dieu au centre. Garder au centre ce qu'il a fait, lui, ses œuvres, et non pas les nôtres. Et ça, dans un esprit de reconnaissance. Et c'est une lutte, parce que naturellement, tout naturellement, on a tendance à ramener les choses à nous-mêmes, à nos besoins, à ce que nous voulons. Commençons donc en bénissant Dieu, en le remerciant pour qui il est, ce qu'il a fait. Pour les choses toutes simples, pour nos repas, pour nos maisons, pour nos vêtements, pour le travail, pour l'air que nous respirons, la santé, les amis, la famille, et aussi l'Église, nos frères et sœurs. Et suprêmement ce qu'il nous a donné, pour ce qu'il nous a donné en Christ à la croix. Il a donné, il a envoyé, il a donné son Fils. Il nous a tant aimés en envoyant son Fils. Et son Fils nous a tant aimés en se donnant à notre place. Et ça pour que nous puissions être pardonnés. Destinés à la possession de ce salut, le fait d'être avec lui, pour toujours, dans sa présence. Mais l'apôtre Paul va plus loin et ajoute des mots qui... à la fois rend ça plus difficile encore, mais encore plus libérateur. Parce qu'il ajoute la phrase « en toutes circonstances ». En toutes circonstances. Est-ce que vous voyez ce détail de poids au verset 18 ? En toutes circonstances, parce que parfois les circonstances sont bien difficiles, n'est-ce pas ? La maladie, la mort d'un proche, les épreuves de tout genre, au travail, en famille, à l'église, dans le voisinage, dans le monde. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Oui, même dans nos afflictions, nous sommes appelés à bénir Dieu, à le remercier avec cette joie. Jean Calvin, le réformateur, a écrit au sujet de ce passage, « Car y a-t-il chose plus propre ou convenable pour nous apaiser ?» quand nous voyons que l'amour de Dieu est si grand envers nous en Christ, qu'il tourne à notre bien et salue tout ce qui nous a de bien. Quand nous faisons ça, quand nous réalisons ça, ça nous apaise. Ça ramène une juste perspective. Nous nous rappelons que Dieu maîtrise la situation. Il maîtrise notre bien ultime. Même si sur le moment, on ne comprend pas les tenants et les aboutissants de son plan. Romains 8 nous explique, c'est l'apôtre Paul qui dit, du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Dieu est tellement souverain, tellement maître de cet univers, de cette vie, maître même sur le mal, le malin, les malheurs, que tout ce qui nous arrive dans la vie ne nous arrive pas sans ses décrets éternels. Et sans que les intentions de Dieu ne soient pas à la longue victorieuses. S'il nous fait passer par un chemin douloureux, il sait ce qu'il fait. Et ça n'enlève rien de son amour pour nous. Paul et Barnabas, après avoir été fouettés et roués de coups à Philippe, ont passé la nuit en prison à prier et à chanter les louanges de Dieu. C'est fort. Martin Luther voyait dans ses épreuves quotidiennes ses luttes spirituelles très fortes. Le moyen vivifiant de Dieu pour nous permettre, je cite, de comprendre les Écritures, la foi et la crainte et l'amour de Dieu. Notre cantique en le vol de la tempête nous l'explique ainsi, je cite, « En le vol de la tempête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. » Et telle est sa volonté pour nous, nous explique l'apôtre Paul. Dieu désire cette adoration qui lui fait confiance, même dans les épreuves. C'est l'histoire d'Adam et Ève, de tout l'Ancien Testament. C'est cette adoration qui lui fait confiance qui a souvent fait défaut au peuple de Dieu. Dieu désire non pas des sacrifices, des actes, des rites, mais cette adoration sincère du cœur qui lui fait confiance. Voici que c'est sa volonté pour chacun de nous. C'est pour ça que Jésus est venu faire de nous des adorateurs, en esprit et en vérité, pour nous aider justement à faire ça. Et en plus, notre adoration, nos prières dans la reconnaissance joyeuse en toutes circonstances, cette adoration-là, c'est un des moteurs ou le carburant de cette vie d'espérance, de cette attente. Ça nous permet de persévérer dans la foi. Dieu s'en sert pour nous aider à persévérer. Cette adoration nous rappelle la bonté de notre Dieu. Elle nous fait languir après lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous arrive actuellement qui tue votre joie ou qui vous empêche de prier avec cette reconnaissance joyeuse? Une circonstance difficile, peut-être une routine où vous avez négligé de lui rendre grâce de manière simple, de manière régulière. Alors ce matin même, l'Esprit de Dieu, par cette parole, par la parole de Dieu, vous appelle à la prière, à une prière très simple. Une prière où on remercie Dieu en toute simplicité pour qui il est, pour ce qu'il a fait en Christ. Une prière qui reconnaît que Dieu sait ce qu'il fait. Nous, on ne comprend pas toujours pourquoi quelque chose nous arrive. Mais une prière qui reconnaît que Dieu est fidèle, il sait ce qu'il fait. Il conduit toutes choses au bien de ceux qu'il aime, même si ses voies restent mystérieuses. Cette prière de gratitude, de reconnaissance joyeuse, expulsera en quelque sorte bien de mensonges, bien de fatigue, bien de doute. Cette prière-là, c'est un carburant pour notre espérance. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. On passe vite et on va passer à la suite du passage et on va voir un autre carburant qui lui-même alimente et éclaire cette prière reconnaissante et joyeuse. Et c'est le carburant de la parole de Dieu. Si on va perdurer dans cette attente, ce long dimanche de fiançailles, avant que Jésus ne revienne, si nous allons vivre cette sainteté pratique en Église, dans l'espérance, on a besoin d'un esprit qui écoute humblement la parole de Dieu. Paul dit au verset 19 et 20, « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, et examinez tout et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute forme de mal. » Si on veut être une église remplie de l'esprit, si on ne veut pas éteindre l'esprit, on doit écouter humblement ce que Dieu nous dit et agir dans l'obéissance, en faisant le bien, en nous abstenant du mal, de ce qui est mauvais. Alors, qu'est-ce que c'est cette parole prophétique? Ne méprisez pas les prophéties. Ce genre de versets sont sujets à des interprétations variées. Ceci dit, de manière générale, dans toute la Bible, un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui transmet et qui applique la parole de Dieu. Il appelle le peuple de Dieu à écouter Dieu et à y répondre dans la repentance et dans la foi. On voit plusieurs types de prophéties dans la Bible. Moïse était le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Il parlait avec Dieu, il écoutait Dieu. Il donnait sa parole au peuple de Dieu sous forme de récits, alliances et de lois. Il appelait le peuple à écouter cette parole et à y répondre à l'obéissance. Les prophètes qui sont venus après lui, on peut penser à Ésaïe, à Jérémie, il y en a d'autres, ont parlé de la part de Dieu au peuple en leur rappelant ce que Dieu avait déjà dit dans sa loi, dans ses alliances, ce que Dieu avait promis de faire dans ses alliances. Et ces prophètes avertissaient le peuple en leur disant que voilà ce que Dieu va faire, il a promis de faire ceci ou cela, si vous ne reveniez pas vers lui, si vous ne restiez pas fidèles à son alliance. Dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même, c'est le plus grand prophète, bien plus grand que Moïse, parce qu'il révèle Dieu. Il est le prophète par excellence, parce que par lui, on connaît le Père. Jésus a parlé, Dieu, le Père, lui a donné des paroles à dire, et Jésus a dit ces paroles. Le Père lui a donné des œuvres à faire, et Jésus a fait ses œuvres. Donc, par Jésus, on connaît le Père. Donc, il a révélé, il nous a donné la parole. Jésus est la parole faite chair. Et aussi, dans le Nouveau Testament, les apôtres ont eu un ministère prophétique. Ils ont parlé de la part de Dieu par leurs écrits, même par cette lettre adressée à l'église de Thessalonique. Encore une fois, la réponse qu'ils cherchaient était la repentance et la foi en Christ. On voit aussi dans le Nouveau Testament quelques exemples de personnes qui avaient un ministère prophétique où, par elles, par ces personnes, Dieu donnait des messages directs avec des avertissements. On peut penser à cet avertissement que le prophète Agabus a donné à l'apôtre Paul à Césarée. Prophétie selon laquelle Paul allait être emprisonné à Jérusalem. De nos jours, dans les milieux plutôt pentecôtistes et charismatiques, certains se disent prophètes et disent recevoir des prophéties, des paroles directes, des messages directs de Dieu. À la lumière des Écritures, moi je ne pense pas qu'on puisse exclure cette possibilité. Même si, et j'ai connu un peu ces milieux, je pense qu'il y a pas mal d'abus, pas mal de problèmes. D'autres milieux pensent que ce genre de prophéties ont cessé quand la parole suffisante a été donnée dans sa totalité, c'est-à-dire quand la Bible dans sa totalité nous a été donnée. Alors personnellement, j'ai un peu de mal à justifier ça de la Bible elle-même, cette approche. Même si les lettres plus tardives, comme celle par exemple de l'apôtre Paul à Tite et à Timothée, ne parlent pas trop de la prophétie, mais plutôt de la prédication. Et certains en effet considèrent que la prédication fidèle au texte est fidèlement et pertinemment appliquée et quelque chose de prophétique. C'est ça la prophétie. Je pense que ce n'est pas faux, la prédication peut être comme ça. Et ça n'explique pas tous les passages du Nouveau Testament. On peut penser à ce passage avec Agabus, par exemple, avec cet avertissement, où Dieu a mis un message sur son cœur pour l'apôtre Paul. Comment faire la part des choses ce matin? On n'a pas le temps d'étudier tout en détail, des passages tels que 1 Corinthiens 14. Il me semble que, quelle que soit notre conclusion, l'enseignement de Paul dans notre passage est clair. Il nous faut recevoir ce qui nous est dit sans mépris, mais avec discernement. Acceptant ce qui est bon et rejetant ce qui est mauvais. Et pour être en mesure de faire ça, en mesure de discerner, il nous faut revenir à la parole elle-même. Cette parole dans laquelle les prophètes ont déjà parlé. Moïse, Ésaïe, Jérémie, Jésus de manière suprême. Ensuite, les apôtres. Les Écritures nous disent qu'elles sont suffisantes pour que nous sachions tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre, pour avoir le salut et pour vivre pour Dieu. Donc il nous faut être une église qui écoute humblement cette parole. Cette parole, Ancien Testament comme Nouveau Testament, qui pointe vers Jésus, vers ce Seigneur et Sauveur qui revient. Mon propre ministère, quand un frère ou une sœur, qui est peut-être plutôt cette sensibilité charismatique, vient me parler, et c'est tout à fait ouvert à ça, vient me parler en disant que je pense avoir un mot prophétique, je vais être dans l'écoute humble. C'est vrai que parfois j'ai des doutes par rapport à l'authenticité de ce que ce frère, cette sœur vit. J'ai parfois un peu peur que cette spiritualité-là a tendance à nous éloigner de cette parole qui est parfaite, cette parole, la Bible. Et je pense que c'est juste être dans cette écoute humble. Même cette semaine, quelqu'un qui n'habite pas ici, qui n'habite même pas en France, a donné une parole prophétique à ma femme concernant notre famille. Est-ce que ça venait de Dieu? Peut-être. Même si je ne suis pas très sûr de ça, je ne suis pas du tout sûr. Mais en tout cas, à chaque fois, l'essentiel, c'est de revenir à ce que Dieu a dit de manière sûre, la parole, les Écritures. Si ce qu'il dit, peut-être dans une telle parole prophétique, dite prophétique, est conforme à cette parole, conforme aux Écritures, tant mieux, tant mieux. Si elle n'est pas contre la parole, les Écritures, mais pas révélée dans la parole, je pense personnellement qu'il faut être très prudent et surtout ne pas se sentir lié à ce qui a été dit. Si elle est contre la parole et les Écritures, ou si toute l'ambiance de ce qui est dit ne colle pas avec le Dieu que nous connaissons. Ce texte est plus que clair. Il faut que nous nous abstenions de toutes sortes de fausses prophéties, de fausses paroles, de ce qui est mauvais, de tout mal, tout ce qui nous induit en erreur. Tout ça est également vrai pour l'enseignement biblique à l'Église, ici à l'Église, ou dans les livres chrétiens que nous lisons, ou ce que nous lisons sur Internet, ou sur les blogs, ou sur les sites chrétiens différents, ou ce qui est dit dans les camps et colonies de vacances. ou des congrès de jeunes. Il nous faut cette écoute humble de la parole, ce discernement. Quand ce discernement n'est pas de rigueur, quand il n'est pas là, quand nous écoutons finalement une autre parole, peut-être celle de notre propre cœur, de notre conscience, ça, à mon avis, c'est un gros risque pour ceux qui pensent recevoir eux-mêmes des prophéties, des paroles de Dieu, des paroles d'hommes et de femmes ailleurs. Le risque, c'est que nous faisons ce que Adam et Ève ont fait dans le jardin d'Éden. Ils ont écouté une autre parole qui a remplacé celle de Dieu et qui a eu pour résultat un mensonge. Ils ont cru ce mensonge. Et leur sainteté pratique, leur adoration authentique de Dieu a été totalement renversée. Et logiquement, il y a eu la pagaille, le désordre. Et si nous, on écoute des paroles, d'autres paroles qui ne sont pas celles de Dieu, logiquement, c'est cette pagaille, c'est ce désordre qui arrivera dans l'Église. Bien sûr, cette écoute humble de la parole peut être renversée de bien des manières. Collectivement, on peut être tellement pris dans nos activités d'Église. Il n'y a pas vraiment de vraie écoute, même le dimanche matin. Peut-être on ne vient pas le dimanche matin en priant, demandant à Dieu de nous ouvrir les oreilles. Et on est là, mais on n'écoute pas. Moi, je peux être là en train de prêcher sans vraiment écouter le texte, si je suis tellement pris dans l'activisme. Nous sommes parfois peut-être fatigués, ou une certaine routine s'est installée, un train-train quotidien s'est installé, où finalement nos cœurs n'ont plus vraiment soif de ce que Dieu dit dans sa parole. Et qu'est-ce qui va nous permettre de garder la foi, de persévérer fidèlement dans cet engagement, dans cette espérance? On a besoin de la prière, joyeusement reconnaissante. Cette prière qui est alimentée par cette écoute humble de la parole. En même temps, si Dieu ne suscite pas ces choses dans nos cœurs, on sait qu'on ne va pas y arriver. Peut-être ce matin, même en écoutant ces choses, ça vous accable un peu. Dites, comment est-ce que je vais faire ça? Écoutez les derniers versets de notre section, ou les versets 23 et 24, qui forment un peu la conclusion de toute la lettre. Nos frères et sœurs à Thessalonique, il y a 2000 ans, avaient bien besoin de cette conclusion. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est aussi lui qui le fera. Parce que de manière ultime, tout est par grâce. Certes, Dieu utilise des moyens. Il veut que nous grandissions, que nous changions. Il veut que nous prions de manière joyeuse et reconnaissante. Il veut que nous écoutions sa parole. C'est primordial. Voilà les moyens qu'il nous donne pour grandir. Mais quand même, c'est son œuvre du début jusqu'à la fin. Et on doit vivre tout ça dans la dépendance de lui. C'est lui qui a commencé quelque chose en nous. C'est lui qui va terminer ce qu'il a commencé. Et justement, dans la prière, on va demander à Dieu de faire ça en nous. De nous donner en tant qu'Église et individuellement cette dépendance de lui dans la prière. De nous donner un nouvel esprit de prière, si je puis dire, si je peux parler de cette manière-là. On va lui demander de raviver cette flamme de l'espérance. De nous aider à voir clair, à l'aimer davantage. À voir plus clair la grandeur et la beauté de ce qu'il a fait pour nous en Jésus. Et ça pour que nos cœurs soient remplis de joie. Pour que nous persévérions dans ce long dimanche de fiançailles. Donc prions. Notre bon Père Céleste, on veut venir devant toi ce matin dans la reconnaissance. Tu es bon, tu as été bon envers nous en Jésus. En Christ, tu nous aimes avec un amour qui dépasse toute attente. Nous ne méritions rien. Et en Christ, tu nous as tout donné. Nous sommes à toi en lui, par grâce. Parce que ton Fils a pris sur lui nos fautes. Il a été chargé de nos péchés. Il a payé pour nos fautes. Il a été chargé de nos fautes pour que nous puissions être revêtus de sa justice, de sa vie parfaitement obéissante, pour que nous puissions être justifiés, déclarés justes, de manière juste, et être adoptés pour être tes enfants. Tu nous as donné tout en Christ, et nous te louons pour Christ. Merci pour ce Seigneur qui est là, qui est présent par l'Esprit, qui nous console, qui nous conduit dans ses verts pâturages, comme il a fait ce matin. Père, nous voulons te remercier de ce que dans ta sagesse infinie, tu nous fais passer par bien des épreuves, parfois très difficiles. Merci parce que tu veux parfaire notre foi. Tu veux augmenter notre confiance en toi. Tu veux qu'on soit, par ces épreuves, plus saints, qu'on ressemble de plus en plus à ton Fils. Tu veux que nos cœurs désirent de plus en plus de te plaire. Et nous voulons te demander dans ces moments d'épreuve de nous aider à te faire confiance. Puisse ton esprit nous rappeler les grandeurs de ce que ton Fils a fait. Et nous voulons également confesser ce matin que parfois on manque de reconnaissance, que nous sommes lents à prier, que nous dépendons souvent de nous-mêmes, que nous n'avons pas toujours soif de ta parole. Et Père, dans ta grâce, nous voulons te demander ce matin de raviver cette flamme. Comme les Thessaloniciens ont éprouvé cette joie au début de la conversion, nous voulons te demander ce matin de rallumer notre joie, en nous faisant regarder à Christ, en nous permettant de voir à quel point il est bon. Donne-nous une nouvelle soif pour cette parole, on pense à la rentrée, cette nouvelle année académique d'Église qui commence dans quelques semaines. Père, nous voulons te demander, dans ta grâce, pour ta gloire, fais quelque chose de nouveau parmi nous, pour qu'on soit une Église qui dépend de toi, qui écoute ta parole, qui prie avec joie, sans cesse, qu'on vive dans la paix, dans la sainteté. Et ça pour ta gloire. Fais ça non pas pour nous principalement, mais fais ça pour toi-même, pour qu'ici, à la Garenne, il y ait un chandelier qui brille, qui, à cause de la grâce, en vertu de la grâce, brille avec une joie sincère, avec un amour ardent. Et Père, nous savons que si ça dépend de nous, on n'y arrivera pas. On n'a pas les forces. Mais nous savons que tu es fidèle et c'est toi qui le feras. Nous comptons sur toi et nous te demandons ces choses au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.